Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello à tous, bonjour et bienvenue pour cette première édition du podcast Touchdown Actu, touchdownactu.com. Je suis Alain Mattei, je serai votre hôte toutes les semaines à ce micro. À mes côtés ce soir, Raphaël Masmejean. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir à tous.
Comment ça va en cette première saison, avant cette première saison de NFL?
Ah bah, motivé de voir le premier match jeudi soir, on est comme tout le monde je pense impatient.
À la technique avec nous ce soir, Camille. Camille, bonsoir. Tu peux hurler de loin quand t'entends dans le micro. Bonsoir à toi et merci de nous aider pour le côté technique qui nous fait peur à tous les autres. Prêt pour une longue saison, Camille?
Oh oui.
Une très longue saison. Camille est supporter des Seahawks, vous l'aurez deviné. Au sommaire de cette première édition de l'actu, de la preview d'avant-saison, des pronostics, des réponses à des questions que vous ne vous posiez peut-être même pas, et des jingles musicaux footballistiques. En parlant de jingles, c'est le moment de lancer le premier, Camille. Ensuite, on sera parti pour la première preview, celle de la conférence NFC. I hear Brenda's got a baby, but Brenda's barely got a brain. A damn shame, the girl can hardly spell her name. That's not our problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Now Brenda really never knew her mom's, and her dad was a junkie.
And he takes the snap, back to throw, under pressure, avoids the rush, and he's gonna fight out of it. Still fights out of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch at the 23-yard line. What a play by Manning. He's eluded three sacks. He runs up to Mike Carey and calls a timeout, and what a catch by Tyree with 58 seconds to go.
What a play. This team won't quit, Bob.
La NFC et les Giants, vous l'aurez peut-être reconnu, la passe de Eli Manning, j'allais dire Peyton, la passe de Eli Manning pour David Tyree dans le Super Bowl de 2008. Les Giants, on y reviendra un peu plus tard, mais on va commencer cette preview de la NFC Est avec la NFC Est et les Eagles. Les Eagles sont-ils favoris? C'est la grande question après le magnifique intersaison réussi par l'équipe. Un mot sur cette équipe, Raphaël. Qu'est-ce que t'en penses en tant que fan des Giants qui a très peur?
Bah, en tant que fan des Giants, forcément, les Eagles paraissent imbattables, notamment après le marché le marché de free agency qu'ils ont fait. Cependant, je pense que Vic va s'écrouler cette saison. Je le vois pas faire une saison aussi forte que l'année dernière. Donc, finalement, les Eagles favoris, oui, mais à mon avis, vont plus décevoir que.
Est-ce que la ligne offensive, c'est rédhibitoire pour Michael Vick notamment, parce qu'on a déjà vu en saison régulière que ça se présente pas super au niveau de la ligne offensive?
Bah, c'est plutôt rédhibitoire du fait qu'avec son jeu, en plus, il sait pas forcément très bien lire les blitz, donc il va se faire sûrement blitzer pas mal cette saison. Donc si la ligne n'arrive pas forcément à bien l'aider, à mon avis, ça va être un carnage pour lui, il risque de sortir sur blessure.
Alors moi, j'ai quand même allé sur les bons points. L'important, c'est quand même, un, d'avoir du pass rush en NFL, avec Jason Babin, avec quelques autres additions qu'ils ont fait cet été, ça devrait être pas mal. Des bons corners, je pense que à ce niveau-là, ils sont à peu près blindés. On va dire que Nandi Asamoah, c'est pas trop trop mal. Hein. Asante Samuel, Rogers Cromartie, c'est pas mal aussi. Donc au final, l'attaque, elle devrait quand même se débrouiller. Même si Vic est en difficulté, il y a quand même McCoy, il y a quand même McLean. Alors McLean, il a des problèmes qu'il faut qu'il résolve avant au niveau de la santé, mais il y a quand même Deshaun Jackson, il y a quand même Brent Celek, donc il y a quand même pas mal. Tu penses quand même, le minimum c'est quoi pour cette équipe? C'est
Je pense qu'ils obtiendront quand même une place en playoff, peut-être même le titre de la division NFC Est. Maintenant, je les vois perdre comme l'année dernière en playoff.
Alors la stat qui tue pour les Eagles l'année dernière, c'était 91,6, c'était le quarterback rating autorisé au quarterback adverse. Normalement ça devrait changer hein, avec Asamoah et ses coéquipiers. Mais c'est vrai que ce que tu disais, alors moi je pense au niveau de la déception, de toute façon, s'ils ne gagnent pas au moins un match en playoff, ce sera une déception. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus.
Ouais, totalement.
S'il n'y a pas de playoff, c'est une catastrophe. Et donc s'il n'y a pas au moins un match gagné ou deux en playoff, ce sera une déception. Le problème pour cette équipe, c'est qu'il va aussi falloir vivre avec cette étiquette de Dream Team annoncée. Vince Young qui a eu l'intelligence de lancer ça, alors, les propos ont été déformés par les journalistes, mais donc voilà, il va falloir vivre avec cette étiquette, ça va être un poids supplémentaire au final.
Ouais, et puis surtout je pense que pour le coach des Eagles c'est un peu la dernière chance, parce que ça fait quand même plusieurs saisons que les Eagles vont en playoff et à chaque fois ça s'arrête avant le Super Bowl, donc je pense vraiment que pour lui, avec ce que ses propriétaires lui ont permis de recruter comme joueur, il joue vraiment sa dernière carte, quoi.
Tu penses qu'Andy Reid, avec le passif qu'il a aux Eagles, peut se faire virer s'il a des problèmes?
Je pense, à partir du moment où les proprios ont mis autant cette saison pour renforcer l'équipe, ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont en playoff et qu'ils sont pas très loin du Super Bowl. Je pense vraiment que pour lui, ne pas aller au Super Bowl cette saison risquerait d'être très...
Alors les gros challengers des Eagles, ce sera en théorie les Giants d'habitude, mais il y a des petits problèmes au niveau... des lignes arrière, puisqu'il manque quand même pas mal de gens, il y a eu pas mal de blessures, et là Manning a lancé beaucoup d'interceptions l'année dernière. Ça, c'était peut-être une anomalie, c'est à toi de nous le dire.
Ouais, je pense que c'est plus une saison en plus les plans les schémas offensifs du coach sont pas forcément très, enfin sont plutôt compliqués, donc je pense s'il les simplifie un peu cette année, Manning devrait faire moins d'interceptions.
Bon, alors pour moi, les adversaires des Eagles, de toute façon, c'est les Cowboys cette année. Premier motif pour moi, c'est quand même l'arrivée de Rob Ryan à Dallas. Quand on a un Ryan qui gère la défense, en général ça se passe toujours beaucoup mieux, non?
Ouais, c'est sûr, il va apporter à mon avis un sacré mental au niveau des joueurs défensifs. Enfin, on connaît les frères Ryan, c'est quand même des gros poids lourds au niveau du mental maintenant, enfin poids lourds dans tous les termes. Je sais pas, Dallas, oui, c'est fort en attaque, ça risque de s'améliorer en défense, mais...
C'est un an sur deux. Voilà, c'est un an sur deux, donc c'est cette année.
J'ai l'impression que c'est un peu aussi au niveau du mental du côté de Dallas, que ça pêche.
Allez, on passe à la NFC Nord, on va faire l'impasse sur les Redskins, qui sont toujours en reconstruction.
Ouais,
la NFC Nord et les Packers, blindés pour le repeat ou pas?
Ah bah, j'en fais mes favoris du côté NFC, sans hésiter...
Faut quand même rappeler qu'il récupère Jermichael Finley qui était sur l'injured réserve en fin de saison, alors qu'il était le meilleur receveur de l'équipe jusqu'à ce qu'il se blesse. Hein. Donc ça va être dur. Ça va être très bon pour eux.
Ça va être bon. Ouais.
Ça va être dur par contre pour les Bears. J'avais sauté une ligne sur ma fiche parce que les Bears avaient surpris l'année dernière, mais eux pourraient se retrouver en difficulté. Il manque quand même de la profondeur dans la défense. Et alors la stat qui fait très très mal et qui a fait très très mal à Jay Cutler, c'est qu'il a été sacké 52 fois l'année dernière. Ça fait un sac toutes les 10 tentatives de passe.
Ouais, ça, on est mal pour lui.
Voilà, donc le problème c'est, est-ce que les Bears n'ont pas un peu surjoué l'année dernière? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont fait ça?
Je pense que l'année dernière ils ont bien été boostés par le retour de Brian Urlacher, qui revenait d'une saison sans quasiment jouer. Je pense que ça a bien boosté la défense. En plus, avec quand même Julius Peppers, ça reste solide. En plus, ils viennent d'ajouter Merriweather quand même, le joueur des Pats. Ça risque d'apporter un petit plus à l'équipe. Donc, je sais pas s'ils sont si faibles que ça.
Alors, il y aura les Lions qui vont les pousser. Une équipe forcément jeune, Ndamu Kongsu, alors il va falloir que je le prononce lentement toutes les semaines. Ndamu Kongsu, donc défenseur de l'année en puissance, on y reviendra dans les pronostics, mais gros joueur, encore une fois dans tous les sens du terme, un vrai playmaker qui fait énormément de bien à la défense, en attaque.
Calvin Johnson. Stafford. Le problème reste les blessures potentielles de Matthew Stafford quand même.
Alors les blessures, il va falloir que sa ligne le tienne. Et un problème aussi, les drops 41 en 2010, plus gros total de la NFL pour les Lions. On va passer aux Vikings. Alors les Vikings, juste en quelques mots, hein, Donovan McNabb qui arrive. McNabb qui va essayer d'aider un peu cette équipe, mais qui a perdu beaucoup en talent. Ça devrait quand même être très très difficile.
Ouais, enfin, ça va être difficile. Après, honnêtement, il peut pas faire pire que Brett Favre l'année dernière. Enfin, je vois pas comment c'est possible. Donc,
allez, la NFC Sud et les Saints de retour au top.
Ouais, malgré le fait qu'ils aient une division quand même assez dure avec les jeunes de Tampa Bay qui poussent et les Falcons, je pense que là ils ont fait un très beau marché des transferts.
C'est la division la plus dure de la NFC, de toute façon.
Ah oui, oui, je pense. Il n'y a pas photo, mais...
Tu disais les transferts, hein. Mark Ingram, Cameron voilà. Jordan,
ils renforcent bien leur jeu au sol.
Obrayo Franklin, par la Free Agency, Olin Kruns en ligne offensive, tout ça, c'est du bon. Et il y aura aussi l'envie de se venger. Et un Drew Brees qui revient parce qu'il était quand même ralenti par une blessure au genou dont il ne parlait pas l'année dernière.
Ouais, puis il faut dire qu'il... Enfin, je trouve que ça reste l'équipe la plus surprenante de la ligue, donc au niveau des schémas offensifs, ils sont toujours capables de surprendre l'adversaire, et ne serait-ce ce fait-là leur permet, à mon avis, de sortir certaines fois, de sortir de guépier.
Les Falcons, ce sera encore très très dangereux aussi. Ça va être très, très... Alors c'était déjà très dur de tenir Roddy White, maintenant il y a Julio Jones de l'autre côté. Ouais. Là, ça devient compliqué à défendre quand même.
Ouais, surtout que Matt Ryan est quand même très solide. Enfin, il a fait vraiment une saison l'année dernière... Bien solide, peu d'interceptions.
Ouais, alors le problème de Ryan, c'est quand même qu'il est solide, mais il est pas exceptionnel. Il manque quand même un palier. Il manque des longues passes. Il manque. Alors il avait. Là, il va avoir des menaces de plus, mais c'est vrai que Ryan, il a l'air de gérer le jeu, de réussir quelques bons coups, mais ça reste quand même sur des schémas courts, non?
Ouais, mais en même temps, mieux vaut un quarterback solide comme lui que d'autres quarterbacks dans la ligue qui font plus peur. Donc, enfin. Je pense que les Falcons vont encore être au top cette saison.
Alors, les Bucks ensuite, calendrier facile l'année dernière, ils ont réussi à engranger 10 victoires, ça va quand même être peut-être plus dur. Tu as l'air de dire qu'ils sont jeunes et bien. Moi, j'ai quand même peur pour cette équipe, parce que c'est vrai qu'ils ont un calendrier qui va déjà être moins facile. L'année dernière, je crois qu'ils avaient battu que les Seahawks parmi des équipes qui étaient allées en play-off. Donc, ça va quand même être plus dur, et c'est vrai que peut-être que tous les jeunes ne vont pas avoir une progression linéaire non plus.
Ouais, je suis en partie d'accord avec toi. Je les vois pas encore accrocher cette année les playoffs. Les Falcons et les Saints me paraissent devant. En plus, comme tu l'as dit, tous les jeunes vont pas forcément progresser obligatoirement. Enfin, c'est pas une évidence. Donc, plutôt peur maintenant. Dur de dire en début de saison.
Les Panthers, on passe. Cam Newton, voilà, vous regarderez Cam Newton. Il est sympa à voir jouer, il court bien. Il sait pas encore trop bien lancer les passes, mais ce serait intéressant à voir. La NFC West, les Rams, favoris par défaut.
Bah oui, parce que quand on regarde les autres équipes, on se demande bien qui peut faire quoi dans cette division.
Alors justement, qui peut faire quoi? Les Cardinals, le challenger peut-être avec Kevin Kolb, qui, s'il arrive à avoir un niveau de jeu correct, en tout cas celui qu'on attendait de lui à Philadelphie avant qu'il soit envoyé, et une défense qui est un peu tangente, ouais, le jeu au sol c'est pareil, Benny Wells, c'est pas très sûr.
C'est pas un très bon running back, c'est sûr.
Alors d'après toi, la lutte ensuite, Seahawks, 49ers, qui pour la dernière place?
Les 49ers, parce que Alex Smith, ça reste quand même assez risible en quarterback.
C'est risible à ce point-là?
Ah ouais.
Alors, c'est pas sympa pour Alex Smith, c'est pas sympa pour les fans des 49ers. Mais c'est vrai que Alex Smith, c'est quand même impensable qu'Alex Smith soit encore titulaire des 49ers. Après, donc ça fait 6 ans quand même qu'il déçoit, ça fait 6 ans qu'il torture les fans. Et il est toujours là, quoi. Enfin, Jim Harbaugh lui a redonné une chance cet été. Il avait plus de contrat, on se disait c'est fini, les fans des 49ers soufflaient et tout. Et non, en fait, on re-signe Alex Smith, on le remet. Mais au point où ils en étaient, ils pouvaient quand même mettre Dante Culpepper qu'ils avaient testé cet été. Enfin, je sais pas, c'est quand même inimaginable. Alors moi, je soupçonne, de toute façon, Jim Harbaugh de faire exprès pour récupérer Andrew Luck l'année prochaine lors de la draft.
Ouais, c'est pas impossible, mais en même temps, je sais pas, c'est quand même des sportifs, donc prendre le risque de faire une saison blanche juste pour récupérer un quarterback, c'est quand même...
Non, j'abuse, mais c'est vrai que je pense qu'il serait pas malheureux s'il récupérait son ancien joueur.
Non, c'est sûr.
Il serait pas malheureux. Voilà pour la NFC, la conférence NFC, on va se quitter pendant quelques secondes et on va revenir pour parler de la conférence AFC. Are you ready for some football?
With the first pick in the 2007 NFL Draft, the Oakland Raiders select quarterback Jamarcus Russell, LSU.
Ah, les bons souvenirs de Jamarcus Russell, qui fait plaisir à tous les fans des Raiders qui nous écoutent. L'AFC ou les Raiders, eh ben, on en a parlé, ça y est, je pense qu'on n'y reviendra plus. Bon. L'AFC Sud, allez, pour commencer, l'année ou jamais pour les Texans, les Colts en difficulté, Peyton Manning blessé, Peyton Manning qui commencera peut-être pas la saison, et donc Houston qui est renforcé avec une attaque toujours aussi forte au sol, des rookies prometteurs pour le pass rush et tout ce qu'il faut. Donc, est-ce que ça va enfin passer pour Houston ?
Je pense que non, ça sera toujours pas l'année.
Oh non.
Déjà, question mentale, j'ai l'impression que c'est un peu une équipe de faible, sans être trop méchant. Puis mine de rien, le jeu de course perd quand même le fullbacker Van Talich. Donc je suis pas sûr que... Enfin, qui était un excellent run blocker. Donc est-ce que Foster va être aussi performant ? C'est une question. Puis de l'autre côté, enfin, on m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais parier contre Peyton Manning. Donc je sais pas.
J'ai décidé de parier contre Peyton Manning cette année en fait. J'ai décidé d'enfin faire confiance aux Texans et il faut être avec eux. Enfin non, mais c'est vrai que c'est désespérant. C'est les 8-8 tous les ans. De toute façon, c'est la même chose. On aurait fait ce podcast l'année dernière, on aurait dit l'année ou jamais pour les Texans parce que c'était encore mieux. Là, il y a Arian Foster, bon, qui est blessé, qui est ralenti, mais qui sera là. Enfin, on ne sait pas trop si ça va durer. Très honnêtement, à mon avis, ça va le ralentir pendant au moins 3-4 semaines. Parce que c'est le genre de blessure qui traîne, on l'a vu avec Darrell Revis l'année dernière, hein, on parle d'une blessure aux ischios. Mais il y a la place. Si Manning loupe 2-3 matchs.
Oui, si Manning loupe 2-3 matchs, ça fait les Colts à 3-0 en début de saison. Maintenant, en face, c'est quand même Peyton Manning, je pense qu'il peut rattraper. Après, le calendrier des Colts, c'est plutôt difficile, il me semble, cette saison. Enfin, il rencontre les Ravens, les Steelers. C'est quand même pas évident. Donc c'est vrai que c'est compliqué de...
Bon, on va vite voir ça en tout cas avec le premier match entre les deux équipes dès ce dimanche. Tennessee, donc avec Matt Hasselbeck qui arrive, ça va encore être difficile même si Chris Johnson est toujours là. Les Jaguars, on sait que c'est dur aussi. Il y a Blaine Gabbert qui est arrivé, on ne sait pas vraiment s'il joue pour maintenant, s'il joue pour plus tard. On passe à la FC Nord. Les Steelers, les champions en titre dans la FC, les vice-champions en titre de la NFL. Les Steelers, impossible à bouger de la FC Nord.
Bah franchement, je pense que oui, même si les Ravens restent leur adversaire principal et que ça va être une fois de plus une lutte serrée pour la première place de division.
Mais là, c'est pareil, tu parlais de mental pour les Texans, enfin c'est mental pour les Ravens au bout d'un moment. Ils ont de la qualité aussi, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à passer les Steelers à un moment.
Je suis pas sûr que ce soit si mental que ça, parce que quand on voit leurs joueurs en défense, Ed Reed, un niveau mental, c'est un des joueurs sûrement les plus motivés de la ligue.
Alors, Ed Reed, 8 interceptions en 10 matchs l'année dernière. Ouais. Donc ils ont des joueurs mais alors qu'est-ce qui manque, est-ce que c'est Joe Flacco aussi qui...
Ouais, moi je pense que ça vient de l'attaque qui est pas très flamboyante, qui est trop classique, pas...
Il manque des risques, on verra bien si avec Lee Evans, Anquan Boldin qui est aussi relativement décevant aussi, hein, par rapport à ce qu'on attendait de lui quand il est arrivé d'Arizona, lui qui voulait avoir un gros contrat, plus être dans l'ombre de Larry Fitzgerald, c'était peut-être un numéro 2 aussi au final, hein.
Ouais, sûr.
Donc voilà. Pour les Browns, Colt McCoy qui va faire des progrès, ce sera à peu près ce qu'il y aura à suivre cette saison.
Ouais, c'est quand même une équipe qui se reconstruit bien, je trouve.
Ce sera sympa à voir jouer.
Ouais.
C'est ce qu'on peut concéder aux Browns. Ce sera peut-être pas la gagne à chaque fois, mais ce sera sympa à voir jouer. Les Bengals aussi d'ailleurs seront peut-être sympas à voir jouer parce qu'ils sont jeunes et inexpérimentés. Le seul problème, c'est que ils jouent pour les Bengals, quoi. Donc quand on a un propriétaire qui s'appelle Mike Brown, quand on voit la situation actuelle avec Carson Palmer qui menace de prendre sa retraite s'il n'est pas envoyé ailleurs, enfin tout le monde veut s'enfuir. Chad Ochocinco a réussi à s'enfuir. C'est horrible d'ailleurs pour Carson Palmer parce que lui a quand même jamais... Il a jamais embêté personne, il a toujours fait son taf. Il veut partir, on le laisse pas partir. Chad Ochocinco, il veut partir, on le dégage. Donc
ouais, c'est sûr. Non mais, la politique des Bengals, c'est quand même bizarre. Ne pas laisser partir Kelsey Palmer et récupérer un tour de draft à la place, ça me semble bizarre quand même.
Allez, l'AFC Est, les Patriots de retour au top. Alors quand on dit au top, c'est au top dans les playoffs parce que la saison régulière c'est bien, hein, ils s'amusent bien, mais le problème c'est que ça gagne plus en playoffs depuis un certain match contre les Giants en 2008. Alors arrivé cet été, Albert Ainsworth, Sean Ellis, André Carter, que du bon vétéran qui a envie de bague, Brian Waters qui vient d'arriver pour la ligne offensive, normalement ça passe.
Ah oui, non mais ça va rester en tête de cette division. Puis Tom Brady reste Tom Brady, donc c'est... Enfin, alors, ça va être encore une saison avec 14 victoires, 2 défaites, mais...
Alors, Tom Brady qui aime beaucoup les tight ends, 22 passes de touchdown sur 36 pour des tight ends l'année dernière, c'est aussi symbolique du jeu des Patriots qui s'est raccourci.
Ouais, du jeu en passe courte et du manque finalement d'un receveur qui part en profondeur, vite, pour attraper des gros touchdowns de 30-40 yards.
Alors, les Jets, eux, pas d'assurance au poste de receveur, plutôt... À part son Tonio Holmes, mais derrière, est-ce que Plaxico Burress, est-ce que Derek Mason, un peu plus âgé, ça va suffire?
Bah, c'est des vétérans. Le retour de Burress, j'ai un peu du mal à y croire. Enfin, après un an, en étant en prison, ça me paraît bizarre. Maintenant, Mark Sanchez, je pense que la clé va être quand même Mark Sanchez. Est-ce qu'il va vraiment progresser encore cette année?
C'est un peu comme Joe Flacco à Baltimore, en fait.
Ouais, c'est un peu les deux profils sont comparables.
Il y a un bon jeu au sol. Alors les Dolphins, ensuite, ils ont perdu leur coureur. Qu'est-ce qui a espéré de Miami cette année?
Mais ça fait un petit moment, personnellement, que j'espère rien de Miami. Enfin, je sais pas, en plus, Chad Henne comme quarterback...
On peut espérer la plage, on peut espérer les filles, franchement, on peut espérer le soleil. Il y a plein de choses à espérer à Miami.
Ouais, non, mais c'est bien comme stade pour accueillir le Super Bowl, après.
D'accord. On sent que tu n'aimes pas les Dolphins. Je sais pas pourquoi.
Non, c'est pas que j'aime.
Pourtant, c'est pas des ennemis des Giants. Bon, je révèle tes préférences, mais c'est pas des ennemis des Giants, pourtant.
Non, absolument pas, mais je sais pas, c'est une équipe qui m'a jamais enthousiasmé. Et...
Allez, on va passer aux Bills alors. Est-ce que les Bills t'enthousiasment un peu plus parce que il se passe pas grand chose là-bas non plus au final quand même. Si on va assister, allez, peut-être à Sean Merriman qui va revenir un petit peu, et puis éventuellement à Ryan Fitzpatrick qui va embêter un peu les défenses adverses de temps en temps, mais c'est tout ce qu'il y aura à voir. L'AFC West avec. Une équipe que j'annonce comme un des favoris de l'année tout de suite, même si je le dirai dans mes pronostics, les Chargers, intouchables dans la AFC West à mon avis. Rivers, un des meilleurs QB de la ligue, la défense est solide, tout le monde de retour après une saison difficile, il n'y a plus de hold-out, il n'y a plus de joueurs qui fait la tronche, il n'y a plus personne, tout le monde est là. Normalement, tout le monde y passe dans la AFC West face à eux.
Ouais, la grosse question, c'est est-ce qu'ils vont encore débuter leur saison par 5-6 défaites et se mettre en route en fin de saison, en milieu de saison, je sais pas. Après... Je pense que Kansas City a encore une carte à jouer cette saison. Enfin, ils ont un running back assez jeune qui peut encore progresser. Après, la question, c'est est-ce que Matt Cassel était pas en sur-régime l'année dernière ?
Alors, je sais pas s'il était en sur-régime, mais il a déjà les côtes à moitié cassées. Donc ça commence mal. On y reviendra d'ailleurs sur Todd Haley et sa décision de faire jouer ses titulaires pendant... quasiment trois quarts temps du dernier match de pré-saison. Donc on termine cette conférence AFC avec les Raiders. C'est la perte de Asamoah qui expose forcément la défense. Les Raiders qui vont être en difficulté cette saison.
Oui, c'est sûr. En plus, niveau quarterback, c'est toujours pas brillant. Le seul point positif reste Darren McFadden, qui est quand même un running back qui est capable de faire exploser pas mal de défenses.
Mais à la santé fragile.
Puis mine de rien, l'année dernière, ils ont quand même battu toutes les équipes de leur division. Ils ont juste perdu contre les équipes des autres divisions, donc s'ils arrivent à réitérer le même exploit en gagnant des matchs contre d'autres équipes, pourquoi, enfin, ça pourrait peut-être passer.
Allez, et on termine avec les Broncos. 23 sacks l'an dernier, le pire total de la ligue au niveau de la pression sur le quarterback adverse. Von Miller, le rookie, devrait aider un peu de ce côté-là. Mais en dehors de ça, ce sera un peu mort. Voilà comment on termine cette conférence AFC. On vous revient tout de suite après le jingle à venir pour livrer tous les pronostics de cette saison.
Some move to the 30, 25, 20, and they won't catch him today. Touchdown Rams!
So it all comes down to this. 6 seconds to play in Super Bowl 34.
McNair drops, throws right side for Dyson. He dives for the end zone.
Didn't make it.
He came up 1 yard short.
Et il est stoppé, les Rams sont champions. Pardon, excusez-moi. Donc les Rams champions, ce sera pas pour cette année. Les Titans non plus. On entendait bien sûr des sons du Super Bowl gagné par les Rams en l'an 2000. Les pronostics de cette année qui, pour succéder aux Packers, Raphaël, je t'écoute, t'es champion pour chaque conférence.
Eh bien, du côté NFC, on fait un classique. Green Bay, je pense qu'ils prennent la relève. Je les vois bien revenir au Super Bowl. Et du côté AFC, toujours aussi classique, Patriots ou Steelers. Je sais pas
ça
trop encore.
Ça se mouille pas là.
Non, aucun risque.
Ça se mouille pas. Bon, je me mouille pas pour la NFC, je donne les Packers aussi. Même si j'hésitais avec les Saints. De l'AFC, je l'ai déjà dit, je donne les Chargers. Philippe Rivers les emmène, les Patriots explosent encore en playoff. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les Steelers, je sais pas, il y aura peut-être un problème en général, c'est une année sur deux aussi. Voilà, donc il va y avoir un problème quelque part et les Chargers, ça va enfin être leur année parce que c'est pas possible autrement. Rivers a tout fait, il a joué avec un genou pété, il a joué avec tout. Il a pas réussi à aller au bout, cette fois il va y arriver. Le MVP
Rodgers.
Aaron Rodgers.
Ouais.
Et bah pour moi, ce sera Philippe Rivers encore une fois. Alors non, ce sera Philippe Rivers si les Chargers ont une bonne défense et qu'ils gagnent plus de matchs. Si Aaron Rodgers et les Packers gagnent plus de matchs, ils vont lui donner pour bénéfice de la saison dernière en plus. C'est obligé. Le défenseur de l'année.
On reste du côté des Packers. Je dirais Clay Matthews, il est passé pas loin la saison dernière.
Alors moi, je reste dans la NFC Nord avec, pareil, je vais pas réussir à le prononcer, Ndamukong-Suh, qui sera pour moi le défenseur de l'année. Alors le seul problème, en fait, pour moi avec Suh, c'est qu'il pourrait prendre trop d'amendes. Et par exemple, s'il continue à dévisser la tête des quarterbacks adverses, etc. S'il prend trop d'amendes, le problème c'est que la NFL va pas vouloir lui donner le titre. Enfin, ils vont sûrement se débrouiller pour qu'il l'ait pas, à mon avis. Voilà, je dis ça. Après, c'est théorie du complot, hein, mais
tu prends
c'est
des
ce
risques.
Que je dis. Alors, Ndamukong-Suh pour le défenseur de l'année, c'est fait. Le rookie offensif de l'année pour toi
Julio Jones des Falcons, équipe stable, invincible à domicile avec les couvertures sur Roddy White, ça devrait lui profiter.
Mark Ingram pour moi, le coureur, l'ancien coureur d'Alabama qui va profiter lui justement du jeu aérien de Drew Brees et compagnie. Si tiens, genre je sais plus à quel endroit il était blessé quand il était à la fac, apparemment il avait des problèmes. Si le genou, les épaules et tout le reste tiennent, normalement moi je parie sur Ingram parce qu'il devrait avoir pas mal de portée au niveau de la end zone et tout ça, donc ça devrait faire pas mal de touchdowns et peut-être pas mal de points pour le rookie de l'année. Le rookie défensif
Von Miller de Broncos. Enfin, il n'y a rien dans cette équipe, donc je pense qu'il ne peut que crever l'écran.
On va voir que lui. Alors moi, je reviens sur les Texans, parce que j'ai dit tout à l'heure que je les aimais bien, du coup je vais supporter. Quoi. Et je vote JJ Watt pour le rookie défensif.
Ah, un rookie défensif chez les Texans, ça me paraît étonnant.
Oui, mais c'est ça en fait, ce serait tellement drôle. Ce serait tellement surprenant et magnifique. Donc pour moi, JJ Watt en défense, parce qu'il a fait une bonne pré-saison. Je crois qu'il était pas mal au niveau du pass rush. Et puis voilà, il y a un nouveau coordinateur là-bas, peut-être qu'il va s'éclater. Sinon, on peut citer, je pense qu'il y aura Patrick Peterson qui va peut-être faire une saison pas mal aussi chez les Cardinals.
Ouais,
mais...
pourquoi pas Nick Ferley du côté de Détroit.
Mais je crois qu'il est blessé, hein, pour le début de la saison, ouais. Donc ce sera peut-être un peu plus dur. On passe aux équipes meilleur bilan en saison régulière.
Bah, les Patriots, hein, les champions de la saison régulière.
C'est ça, mais c'est horrible comme titre, ça, le champion de la saison régulière. Ça fait penser, non, il n'y avait pas des équipes au basket comme ça, les Phoenix Suns, pour ceux qui suivent la NBA par exemple, qui gagnaient tout le temps en saison régulière mais qui se plantaient en playoff. Les Patriots, ils sont en train de devenir un peu ça en effet, parce que je les ai aussi comme meilleur bilan de la saison régulière. Et la plus mauvaise équipe, donc l'équipe qui va avoir Andrew Luck l'année prochaine.
Eh bien, je pense que ça va être Denver.
Denver, et eh ben moi j'ai fait le pronostic qui fait plaisir à Camille. J'ai fait Seattle. Pour moi, je pense que c'est Seattle parce que c'est vrai qu'ils n'ont personne au poste de quarterback, malheureusement pour eux, enfin, avec tout le respect que je dois à Tarvaris Jackson et Charlie Whitehurst, qui est quand même le sosie de Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters, et ça, c'est quand même vachement bien pour un quarterback.
Surtout dans la ville de Seattle.
Surtout à Seattle en plus, c'est vrai que c'est quand même l'ancien batteur de Nirvana qui était à Seattle. Mais à part un sosie de Dave Grohl, pour moi, Seattle, ils n'ont pas grand chose, et donc ça va les planter et les condamner à avoir malheureusement le plus mauvais bilan de la ligue. On passe à une chronique qui s'appelle la question de la semaine et c'est le moment de vous éclairer sur une petite question et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, je vous le dis d'avance, sur podcast@touchdownactu.com. Les coordonnées sont aussi sur le site. Et la question de cette semaine, c'est sur les contrats d'une journée. Est-ce que tu t'étais déjà posé une question sur les contrats d'une journée, Raphaël ?
Non, ça m'avait pas encore effleuré l'esprit, donc c'est pour ça que c'est une très bonne rubrique.
Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a un contrat d'une journée ? La semaine dernière, l'exemple, c'est Fred Taylor, il a signé une journée avec les Jaguars pour pouvoir prendre sa retraite avec le maillot de Jacksonville, et alors il y a beaucoup de joueurs qui font ça, hein, c'est une grande tradition. La question, c'était de savoir combien gagne un joueur NFL pour un contrat d'une journée. Et la réponse a été donnée sur le site deadspin.com. Cette semaine, la réponse, c'est 0 euros, 0 dollars, 0 pesos. Mais attention, ça veut pas dire que le contrat est bidon ou que c'est juste pour la forme, c'est un vrai contrat NFL. NFL, même un contrat d'une journée. Donc comme tous les contrats, il doit être signé, les Jaguars doivent avoir une place dans l'effectif disponible. Donc il y a un joueur qui a été coupé pour que Fred Taylor puisse signer son contrat d'une journée. Le contrat doit être envoyé à la Ligue, toutes les procédures doivent être faites. Et Taylor a donc bien fait partie de l'effectif des Jaguars pendant un peu moins d'une journée. Et alors là où on passe au côté salaire, c'est que son contrat mentionne un salaire, même s'il ne va pas jouer. Donc le salaire, c'est 910 000 $ pour le minimum vétéran pour l'année. Ils peuvent aussi marquer un salaire au prorata du temps où il va rester. Donc au final, l'équipe, elle n'a rien à payer. Pourquoi ? Parce que la retraite d'un joueur, c'est considéré comme un motif de rupture du contrat qui permet à l'équipe de ne pas payer le montant du salaire. Donc c'est pour ça. Donc le salaire et le contrat sont vrais sur le papier, mais comme il s'en va au bout d'une journée et qu'il remplit officiellement ses papiers de retraite, il n'a pas à être payé. Et c'est aussi pour ça, pour faire un lien avec l'actu, que Carson Palmer risque de laisser un gros paquet d'argent s'il prend sa retraite avec les Bengals. C'est la menace qu'il a prononcée. C'est-à-dire que si je ne suis pas transféré, je prends ma retraite. Mais s'il prend sa retraite, il laisse toute la fin de son contrat sur la table. Voilà, c'était la petite question de la semaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos petites ou vos grosses questions. On essaiera d'y répondre autant qu'on peut. En attendant, on vous laisse avec une petite pause musicale et on se retrouve pour la polémique de la semaine.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Ambiance box, c'est parti pour la polémique de la semaine. La question de la semaine, est-ce que Michael Vick vaut 100 millions de dollars? C'est le montant du contrat que lui ont fait signer les Eagles. Alors, je dois avouer, le contrat, il sera plutôt sur 5 ans et 80 millions, mais le chiffre qui fait rêver, c'était 100 millions avec la 6e année qui n'aura peut-être pas lieu. Donc c'est 100 millions pour nous et le débat est là, est-ce que Michael Vick vaut 100 millions ? Dans le rôle du mauvais flic qui descend Michael Vick et qui a des arguments contre Raphaël, dans le rôle du bon flic, moi-même, qui va dire pourquoi c'est bien, je te laisse ouvrir les hostilités sur pourquoi c'est pas bien.
Alors d'abord, mon côté Giants n'a rien à voir avec ça.
Non, ça compte pas.
Bah, d'abord, je pense que Vic ne vaut pas 100 millions, tout simplement, enfin, au niveau de ses qualités intrinsèques. Par exemple, si je ne me trompe pas, la première saison de son contrat va être à hauteur de 16-17 millions, ce qui est équivalent au contrat de Brady et Manning. Donc pour moi, Vic ne vaut ni Brady ni Manning, donc ça me paraît bizarre qu'il soit payé autant.
Mais alors moi, sur le truc des contrats, sur les montants des contrats, c'est là que je contre-attaque. Si tu regardes quand même les contrats, alors il est un petit peu en dessous de Brady et Manning, il les vaut pas, on est d'accord. Mais Larry Fitzgerald a touché 120 millions de dollars alors que c'est un receveur.
Oui, mais bah, comment dire, Larry Fitzgerald a quand même beaucoup apporté ces dernières années aux Cardinals. Certes, pas autant qu'un quarterback.
T'as le droit de dire que le contrat de Fitzgerald est foireux aussi.
Ah oui, non, mais ça, je le pense. Mais enfin, pour... Enfin, je sais pas.
Alors, parce que si on revient au niveau des quarterbacks, bon, le contrat de Fitzgerald, c'est une aberration. Si on voit au niveau des quarterbacks, Eli Manning a déjà touché 100 millions, Philippe Rivers a déjà touché son million. Ben Roethlisberger les a eu aussi. Enfin, ça devient un peu le standard pour le titulaire quasiment.
Certes, mais enfin, dans deux des trois quarterbacks que tu as cités, enfin, les trois, aucun n'a fait de prison. Et,
c'est pas bien.
Et deux des trois ont déjà remporté un Super Bowl.
C'est pas bien du jeu là-dessus.
Deux des trois ont déjà remporté un Super Bowl.
Il a payé sa dette.
Oui,
soyons clairs, Michael Vick a payé sa dette, ça n'a pas de rapport. Tu parles peut-être pour le côté baisse de forme éventuellement qu'il pourrait connaître.
Voilà, déjà, puis enfin, je sais pas si
parce que enfin au final, moi j'irais plutôt dans le sens contraire. La prison, bon, c'est il a payé sa dette, maintenant voilà, on n'a plus à le juger là-dessus et c'est terminé. Et justement, ça peut peut-être prolonger sa carrière parce qu'il n'a pas eu à subir les chocs et les choses comme ça pendant justement quasiment 2 ans.
Ouais, mais enfin, à mon avis, il a un peu rouillé pendant 2 ans. Là, il est revenu l'année dernière à un top niveau. Parce que finalement, je pense que les défenses s'y attendaient pas à un Michael Vick à ce niveau-là. Donc, je pense cette année, les défenses vont amplifier les blitz sur lui, sachant qu'il sait pas vraiment très bien lire les défenses. Donc, il va prendre plus de coups. Il a 31 ans avec son jeu risqué. Je suis pas sûr que ça passe très longtemps.
Moi, t'as compris que mon argument, de toute façon, le seul, c'est les contrats. Hein. Mmh. J'ai que ça à me mettre sous la main. Mais c'est vrai que si tu regardes, il touche 40 millions garantis sur son nouveau contrat. Sam Bradford, pour indication, sur son premier contrat rookie. Alors, c'est fini les contrats rookie mirobolants. Mais Bradford, l'année dernière, il touche 50 millions garantis. Il avait même pas posé un crampon sur la pelouse, quoi.
Ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est lié. Enfin, j'ai l'impression que les salaires chaque année augmentent. Je pense que. Bradford, il y a 10 années, il n'aurait pas touché cette somme-là, a priori.
Alors, je crois qu'il a déjà eu un contrat à 100 millions aussi, hein, si je ne dis pas de bêtises. La liste des joueurs qui ont touché 100 millions, un contrat à 100 millions dans l'histoire de la NFL, c'est Brady Manning, Brett Favre, Vic quand il était à Atlanta, Donovan McNabb, Carson Palmer et Albert Ainsworth. Donc, à ce moment-là, si on prend le cas Ainsworth, j'ai gagné.
Oui, mais bon, enfin, c'est un cas désespéré, c'était chez les Titans.
Et alors, normalement, t'as une stat pour m'achever.
Ouais, alors, la plupart d'entre vous le savent, sa force, c'est le jeu au sol, à Vic. Le problème, c'est qu'il a 31 ans et que ça va baisser. Alors, il y a une stat, comme Alain vient de dire, c'est le quarterback Randall Cunningham, qui est le deuxième quarterback de l'histoire en termes de yards gagnés au sol. Avant ses 30 ans, il gagnait 42 yards, et une fois qu'il a dépassé ses 30 ans, donc comme Vic, il ne gagnait plus que 15 yards au sol.
Bon, on déclare quoi le match nul là-dessus? Camille, hurle-nous un résultat. Qui a gagné?
Ah, mais j'ai un avis personnel aussi. Je crois pas en Vic, mais...
Camille, il croit pas en Vic. Bon, je crois que j'ai perdu. Allez, on va dire qu'il a été payé à sa valeur du marché. Mais qu'après, c'est un risque.
Et après, peut-être voir aussi qu'il va ramener au niveau des fans. Qu'est-ce qu'il va ramener?
C'est ça. Après, voilà, il y a aussi le revenu. C'est quand même vite amorti. Bon, allez, on va dire, financièrement, c'est un pari dans l'air du temps. Mais ça ne les vaut peut-être pas sportivement. C'est comme ça qu'on va finir la polémique et qu'on va conclure cette polémique de la semaine. On se quitte avec un autre petit jingle musical. On ne se quitte pas, on revient dans quelques secondes. Et ensuite, on enchaînera avec les previews des matchs de la semaine. On va enfin rentrer dans le vif du sujet. Le lockout est loin de nous. On va reprendre la NFL. C'est reparti pour les matchs. Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest?
What do you call?
I'd like to call heads.
Heads is called.
Look at him, he's laughing.
Seattle's won the toss.
We want a ball, we're going to score.
Matt Hasselbeck a gagné le toss. C'est parti, on va pouvoir enfin démarrer la saison NFL, enfin les matchs. On parle plus du lockout, on parle plus de tout ça. On en a même quasiment pas parlé dans l'émission et on va pas le faire. Les matchs de la semaine, on commence avec un mot rapide sur Green Bay New Orleans, le premier match. Si vous nous téléchargez un vendredi ou un samedi, vous connaissez déjà le résultat, désolé. En tout cas, c'est une énorme affiche, les deux derniers champions avant goût de finale de conférence.
Ouais, c'est fort probable, deux des plus beaux jeux de la ligue, ça joue bien, des bonnes défenses. Surtout contre la passe en plus, donc...
Les trucs à surveiller selon toi, dans ce match?
Le comportement de Rodgers après la bague, est-ce qu'il va poursuivre... est-ce que ça va vraiment le motiver ou est-ce qu'il va un peu trop se prendre au sérieux et...
Alors, à savoir que depuis 7 ans, le champion en titre a toujours gagné le match d'ouverture. L'année dernière, c'était les Saints contre les Vikings, justement. Le match à ne pas manquer de la semaine, un choix chacun. À toi de me dire.
Je partirai sur Atlanta-Chicago. À mon avis, les deux équipes font partie des deux divisions les plus serrées pour une place en play-off. Donc, chacune des deux équipes n'a pas intérêt à perdre de temps pour gagner des matchs. Donc, vraiment le gros match. En plus, quand même deux belles équipes, je trouve. Ça risque d'être sympa.
Alors moi j'ai deux matchs de la semaine, je triche cette semaine. Le Pittsburgh-Baltimore, énorme duel de défense, la guerre des tranchées, tout ce que vous voulez. Si vous aimez la défense, vous regardez celui-là. Et avec justement, on va pouvoir enfin voir si Joe Flacco va élever un peu son niveau de jeu. L'autre, c'est le Dallas-New York, parce que j'ai envie de voir ce que vont faire les Cowboys cette année. Et ce sera quand même un bon test d'entraînant.
Ouais, faut voir comment le nouveau coach défensif arrive à faire appliquer son système. À mon avis, c'est un peu la grosse question, la défense de Dallas, comment elle va réagir. La défense des Jets, a priori, toujours aussi forte. Donc,
on va voir ce que fait Sanchez,
voilà,
pour le début
Sanchez
de la saison.
Contre la défense de Dallas, je pense que c'est un peu la clé.
Alors, dans les autres matchs marquants, il y a Détroit-Tampa Bay, le match des jeunes.
Ouais, c'est un beau match. Comme pour Atlanta et Chicago, les deux équipes sont division compliquée.
Indianapolis-Houston, donc les Texans contre les Colts, le match dont on a parlé pas mal dans ce podcast. Déjà important pour Houston.
Ouais, forcément, surtout que Manning est, a priori ne va pas être là, donc faut, enfin, s'il n'arrive pas à être Indianapolis sans Manning, ils gagneront pas le titre.
D'ailleurs, question hors sujet, parce qu'on n'est on est pas dans les matchs, mais est-ce que Manning il a pas un peu arnaqué les Colts sans rire en signant ce contrat à X millions, je sais plus le chiffre exact. Il signe un énorme contrat alors qu'il a toujours mal à la nuque, et au final il est pas là, il y a arnaque ou...
Bah, je sais pas s'il arnaque, parce qu'il y a quelque part, enfin, a priori, d'après ce que j'ai lu, il a quand même baissé par rapport au contrat qu'il aurait espéré toucher pour que son équipe puisse signer plus de joueurs, etc. Donc puis ça fait quand même un moment qu'il est dans son équipe, je le vois pas vouloir arnaquer son club, je sais pas.
Ça aurait quand même pu, on finit un peu là-dessus, mais ça aurait pu être un autre débat de la semaine, ça aurait pu être Manning vaut-il toujours aussi 100 millions, parce qu'il commence à vieillir, il a des problèmes de nuque, et il va louper son premier match.
Ouais, c'est sûr.
Allez, on enchaîne avec Philadelphie-Saint-Louis, gros match aussi, les débuts de la Dream Team de Philadelphie, et on va tomber sur Vic s'il fait rien dès ce premier match, je pense.
Ouais.
Ce sera le verdict, le premier verdict. Allez, on va pas être méchant quand même avec les Eagles, on va leur laisser du temps. Mais ça va quand même être le premier test face à une équipe de Saint-Louis jeune et en progression, donc ça va être sympa à suivre.
Ouais, avec un. Enfin, pour Saint-Louis, du coaching, enfin, staff très intéressant, je trouve, au niveau du staff défensif et de l'arrivée de McDaniels pour l'attaque. J'ai hâte de voir le jeu de Watford avec ce nouveau coach offensif.
C'est vrai que, comme tu dis, ils ont quand même de la chance d'avoir Spagnuolo pour la défense, McDaniels pour l'attaque, c'est pas mal. C'est les deux d'ailleurs étaient dans le Super Bowl de 2008 les Pats et les Giants.
Non, ouais, c'est pour ça, c'est une équipe, je pense, qui peut vraiment passer un palier cette saison.
On enchaîne donc avec les deux Monday Night, parce qu'il y en a deux pour le prix d'un pour ouvrir la saison, parce qu'on doit se faire deux fois plus plaisir après le lockout. Le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas vraiment une super affiche. Oakland-Denver, wouhou! Donc, on va vous conseiller l'autre, Miami-New England. Là, ce sera déjà un peu plus intéressant. Les Brady Boys en prime time pour la première semaine.
Ouais, mais à mon avis, le problème, c'est que ça risque d'être un match à sens unique, bien plus que l'autre Monday Night. Donc,
bah, ce sera rigolo, faut bien quand même voir des blowouts dès le début de la saison pour rigoler un peu.
Ouais, voir les Pats s'écraser les adversaires de leur division. Ouais,
allez, en parlant de pronostics, justement, on va enchaîner les pronostics, tous les matchs de cette semaine, les pronostics à ne pas suivre si vous voulez gagner vos pronostics sur le forum notamment. Allez, on va donner nos pronostics chacun notre tour. New Orleans Saints, Green Bay Packers.
Green Bay
aussi. Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens.
Steelers
aussi. Browns, Bengals.
Browns.
Les Browns aussi. On est tout le temps d'accord. Les Colts à Houston.
Bah, les Texans.
Les Texans aussi, puisqu'il n'y aura pas de Peyton Manning. Tennessee Titans à Jacksonville.
Oh, les Jags.
Allez, les Titans pour moi. Premier point de désaccord. Buffalo à Kansas City.
Kansas City.
Buffalo. Allez, Steve Johnson. Steve Johnson, John, comment il s'appelle Fitzpatrick?
Pourquoi j'ai Ryan.
Pas son... Ryan Fitzpatrick, autant pour moi. Les Falcons à Chicago.
Chicago.
Atlanta pour moi. Détroit à Tampa.
Détroit.
Détroit aussi. Philadelphie à Saint-Louis.
Philly.
Pareillement. Les Giants à Washington.
Giants.
Giants également. Les Panthers à Arizona contre les Cardinals.
Les Cards.
Allez, les Panthers, on va être sympa avec Cam Newton pour sa première. Les Seahawks à San Francisco.
Les Seahawks.
Alors là, match nul. Enfin, c'est... s'ils pouvaient perdre tous les deux, peut-être qu'ils le feraient, je sais pas. Allez, on va dire sans... Non, je peux pas parier pour Alex Smith. Seattle. Ensuite, les Vikings à San Diego.
Les Vikings.
San Diego pour moi. Ah, tu paries encore que les Chargers vont commencer par perdre.
Ouais, je me demande ça fait combien de temps qu'ils ont pas gagné le premier match.
C'est vrai. Les Cowboys à New York.
Les Jets.
Allez, les Cowboys pour moi. Les Patriots à Miami.
Les Pats.
Les Pats aussi. Et le match au sommet entre les Raiders et les Broncos.
Oakland.
Et ce sera Oakland pour moi aussi. Et on termine cette émission et ce premier podcast avec le 2 minute drill. Il va falloir aller vite, on enchaîne les questions sur l'actualité. Et on commence d'abord avec la série de matchs titulaires de Peyton Manning qui va se terminer à 227. La série de Brett Favre était à 321, record battable ou pas?
Ouais, carrément, surtout dans cette ligue où on ne peut plus toucher les quarterbacks sans qu'il y ait un flag. Moi je dis c'est battable. Randy Moss a l'air de s'ennuyer chez lui. À ton avis, est-ce que Bill il doit prendre le téléphone ?
Non, surtout pas. Ils ont déjà Ocho Cinco, ça suffit déjà au niveau des caractères. L'ancien pro bowler coupé qui va réussir la meilleure saison avec sa nouvelle équipe, Brandon Merriweather avec les Bears, André Gurod avec les Ravens ou Tommy Harris qui n'a pas d'équipe et qui va avoir du mal.
André Gurod parce que les Ravens c'est l'équipe la plus stable, donc ça me paraît plus simple. Todd Haley, le coach de Kansas City qui a fait jouer toute son équipe la semaine dernière, une bonne partie du temps, t'en penses quoi ?
Idiot, c'est stupide. Personne ne fait jouer son équipe pendant 3 cartons dans le dernier match de saison régulière. Matt Cassel termine avec les côtes cassées ou à moitié fracturées et hypertoniquement acquis sur la saison. C'est dommage et c'était pas très très fut. Le fétichisme des pieds de Rex Ryan, son frère pense qu'il est un peu flippant.
Totalement d'accord, c'est bien flippant. Maintenant, je trouve Rob bien plus flippant que Rex à titre personnel. Mais bon.
Tolérance quand même.
Donc pour toi, Clinton Portis ou Larry Johnson pour revenir au niveau?
Larry Johnson parce que c'est le seul qui a réussi à jouer en pré-saison alors que le pauvre Portis il a été essayé par tout le monde mais chaque fois il se fait larguer. Vraie retraite ou gros coup de bluff pour Carson Palmer, est-ce qu'il va revenir un jour ou est-ce qu'il laisse l'argent sur la table?
Gros coup de bluff, trop d'argent à laisser, à mon avis il va vouloir le prendre. Et à ton avis, Chris Johnson, il va attendre les 2 milliards ou au sol ou...
Blessure vers la semaine 7 et il atteindra même pas les 1200. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première édition du Touchdown Actu Podcast. Ça a été un vrai plaisir. On espère que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que nous on a eu à le faire. Merci à Raphaël pour ta participation.
Pas de soucis, c'était un véritable plaisir.
Merci à Camille pour la technique qui peut hurler un coup.
Ouais.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur touchdownactu.com où vous retrouvez toute l'actu de la NFL. N'oubliez pas aussi le forum pour faire part de vos remarques, les questions et toutes les remarques que vous pouvez envoyer sur le podcast. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos mails, on en prendra à l'antenne sur podcast@touchdownactu.com. Nous on vous laisse, on vous retrouve la semaine prochaine avec les résultats des premiers matchs. Bon week-end et bon match à tous. Ciao ciao.